tous, retrouvez tout de suite l'équipe de la demi-heure sport.
Bonsoir à tous, il est 19h21, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de la demi-heure sport. Cette émission est réalisée par Cyril. Comment il va Cyril ce soir ?
C'est moi et ça va bien, merci.
Et Cyril qu'on retrouvera d'ailleurs à 20h aussi dans l'instant de voyance tant qu'on y a échauffé de la
deux
promo.
Salles, deux ambiances, voilà, on passe à la voyance.
Voilà, c'est ça. Allez, ce soir, je suis ravi de vous retrouver. J'ai un invité qui nous a fait pas mal de routes. Il est venu du côté du Saint-Ladé. Il s'appelle Mathieu Bru. Il est président du FC Saint-Géniès. Et il est aussi licencié au club d'athlétisme du Périgord Noir, si je ne dis pas de bêtises.
C'est bien ça.
Merci Mathieu d'être venu ici dans nos studios à Ribérac.
Bah, merci à vous pour l'invitation et bonsoir à tous.
Allez, on va commencer cette émission du coup avec cette histoire, ces deux passions. La première passion, je dirais que ce n'est peut-être pas forcément le football, même si tu as commencé tes classes au foot. Tu vas te présenter pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu. On va revenir un petit peu sur ton parcours, Mathieu. Raconte-nous un peu ton histoire.
Ouais, et ben allez, avec plaisir. C'est une histoire qu'on entend finalement assez fréquemment ces derniers temps, puisque c'est l'histoire d'un enfant issu d'une famille de sportifs, notamment ma maman, et qui a commencé ses classes au foot à Sarlat, dans la catégorie débutant. Donc dès qu'on peut faire du foot, j'en ai fait, dès que j'ai pu en faire. J'ai fait mes classes donc à Sarlat. Après, une école de foot s'était montée sur le canton du Salignacois, donc j'avais rejoint cette école de foot avant de partir du coup après sur le collège, où un petit peu classiquement un cross du collège gagné en 6e, donc repéré par celui qui deviendra mon coach d'athlétisme plus tard, mais on ne le savait pas encore ni l'un ni l'autre finalement. Donc après j'ai fait les deux, hein, course à pied et foot, avec une petite préférence pour le foot, jusqu'à un résultat en catégorie minime où on fait champion d'Aquitaine par équipe de cross, et où j'obtiens de mémoire un podium, et où on est trois à être repérés du club de Sarlat pour intégrer du coup le sport études de Talence, le pôle espoir à Talence.
Donc là, ça commence à pas rigoler.
Ouais, exactement. Là, c'est voilà. Là, j'avais repris le foot à Sarlat à cette époque-là.
Ouais.
Catégorie moins de 13, moins de 15 à l'époque, ouais. J'avais fait là-bas. Et j'avais gardé le double cursus foot et athlé. Au grand désespoir de mon coach d'athlé qui, s'il nous écoute, se rappellera des discussions qu'on avait, des longues discussions dans lesquelles il avait essayé de me dissuader de continuer le foot pour faire de l'athlé à temps plein.
C'est surtout pour la performance ?
Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, effectivement, quand on rentre dans des niveaux de performance assez élevés, on ne peut pas multiplier les sports. Il faut vraiment se spécialiser et on en parlera sûrement après, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout après, on limite le risque de blessure en faisant ça, quoi. Donc effectivement, après intégration du sport-études, choix un peu cornélien puisque je savais que là, c'était le foot, c'était fini. On lui disait au revoir définitivement. L'expérience de vie était tellement intéressante qu'on a tenté l'aventure. En plus, on était trois avec trois profils différents. Ça allait du 400 mètres jusqu'au 3000 mètres pour moi. Et donc intégration du pôle espoir sur toutes mes années lycée à Talence. Donc départ pour Bordeaux. On quitte le cocon familial et le Sarladé que j'aime tant pour la ville, hein, et première expérience en ville. Il n'y a pas eu de transition par Périgueux ou des villes de taille plus intermédiaire. Ça a été directement dans le Grand Bain.
C'est pas compliqué ça pour tout quitter comme ça et se retrouver dans une ville comme par exemple Bordeaux.
Je pense que ça dépend beaucoup de chacun et des expériences qu'on a pu avoir auparavant.
Ouais.
Pour moi, ça a été dur. Ça a été dur les premières semaines. Je vais peut-être révéler quelque chose que je n'avais pas révélé jusque-là, mais il y a eu des pleurs les premières semaines.
Ouais.
Parce que internat, parce que loin de la famille, parce que loin des repères. Et c'est vrai que du coup, ça a été compliqué, très honnêtement. Après, on s'y fait vite parce que le sport est en cela formidable, que c'est un formidable vecteur aussi d'amitié, de camaraderie.
Ouais,
On vivait notre passion et voilà, ça a duré 15 jours et après on avait plus de mal à rentrer le week-end qu'à partir le dimanche soir.
Bien sûr. Et du coup, donc ça, c'était le parcours de Mathieu. Mathieu, tu vas nous dire comment aujourd'hui tu es devenu président. Tu es revenu dans la partie du football, mais tu n'es pas seulement président, tu joues aussi. Tu joues et tu fais du trail. Comment on fait du coup pour concilier les deux casquettes ?
Alors, déjà, je ne le conseille pas forcément. Ouais. Parce que c'est pas toujours évident. Honnêtement, il faut quand même... Voilà, moi, j'avais quand même un passé assez conséquent sur la course à pied pour pouvoir le faire et savoir comment le faire en évitant les blessures.
Ouais.
Donc ça peut se faire. Comment ça se fait? Tout simplement, j'ai envie de dire, ça se fait à la passion et un petit peu, pour ma part, à l'instinct, quoi. C'est tout simplement, il n'y a pas vraiment de calcul. Le club de foot, ça a été un projet de copain. Voilà, il y avait ce manque de structure sur le canton où j'habitais, puisque maintenant j'habite vraiment à Sarlat, mais il y avait un manque de structure côté copain, côté club d'amis, sans compétition, tout ça.
Ouais.
Donc moi j'ai été sollicité par quelques amis pour ce pari un petit peu fou, que j'ai considéré comme trop fou au début. Et finalement, qui de fil en aiguille,
de refaire
un club, de refaire naître un club et puis de repartir de zéro, puisqu'il a fallu recréer une association, il a fallu vraiment repartir de zéro pour des novices en la matière qui l'avions jamais fait. On s'est dit, dans quoi on s'embarque, franchement, on a même douté plusieurs fois, hein, est-ce qu'on va au bout, est-ce qu'on le fait ou pas. Et puis finalement, l'engouement que ça a pris, on se dit ça une semaine, 15 jours après, au début on était 6-7 autour de la table, puis 10, puis 20, et on a commencé la première saison, on avait plus de 30 licenciés, quoi. Donc voilà, dans un territoire rural comme le nôtre, c'était un formidable message d'encouragement, et c'est ça qui nous a aidé à aller au bout du projet.
Là, je reviens sur justement la création du projet. Le noyau, il y avait un noyau d'hommes forts qui était là.
C'est ça.
Qu'est-ce qui a fait qu'après on regroupe d'autres personnes? C'est le bouche en oreille, c'est je vais en parler à la commune derrière fait un petit message et il y a d'autres personnes de la commune qui viennent.
Ouais, tout à fait. C'est un tout. Hein. C'est, de toute façon, en termes de communication, le bouche à oreille, ça a vraiment été le primordial. Et je dirais qu'on est resté fidèle à nos valeurs et à ce qu'on voulait faire. Et assez naturellement, les gens sont venus vers nous. On n'a pas fait de grandes campagnes de recrutement où on allait dans les clubs à côté chercher des gars ou tout ça. Ça s'est fait assez naturellement avec des anciens qui avaient connu le club à l'époque, avant qu'il soit absorbé dans une entente qui s'est faite sur la commune voisine. Et donc, naturellement, ils sont revenus vers nous, forts des valeurs qu'on portait, de ce qu'on voulait faire. Ils se sont vraiment retrouvés dans ce projet. Et preuve en est, on attaque la quatrième saison. Et tous ceux qui étaient là au début, à quelques exceptions près, mais en tout cas, le noyau, même élargi, est toujours là aujourd'hui, est toujours motivé. Et on va faire perdurer ça encore de quelques années.
Ouais, c'est assez intéressant le message que tu dis. Hein. C'est là, il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont aussi des bandes de copains et qui ont envie de relancer des clubs en Dordogne. Est-ce que c'est vraiment compliqué à faire au niveau administratif?
Alors non, la partie administrative, il faut se tranquilliser là-dessus, c'est vraiment pas le plus compliqué.
Ouais.
Et j'ai tendance à dire qu'en plus, il y a des instances qui sont là pour aider. Je veux dire, aujourd'hui, on a un district qui est vraiment à l'écoute des clubs. Si on passe un coup de fil au district, ils sont en mesure de nous aiguiller, de nous aider.
Bien sûr.
La FEDE met à disposition des statuts pré-rédigés, on n'a plus qu'à l'adapter au bureau qu'on veut mettre en place ou comme ça. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de sujet, c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, honnêtement, c'est après, pour durer, c'est l'investissement. Parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement au quotidien. Donc ça, il faut y être prêt, à passer beaucoup de temps au stade, à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnées. Parce que
du style.
Aujourd'hui, par exemple, je peux te le dire, je suis président, mais je suis amené à tracer le terrain, je suis amené à faire les sandwichs pour le casse-croûte du dimanche pour les adversaires, je suis amené à nettoyer les vestiaires, et on l'est tous, que ce soit le président, le trésorier, le secrétaire, le joueur,
Tout le monde met le main dans le corbouille. Ouais,
exactement, c'est ça. Et ça, c'est hyper riche pour un club, je dirais même que c'est le plus important.
Ouais,
le reste administratif, ça se fait honnêtement, on n'est pas plus malin que les autres, on n'est pas plus intelligent que les autres, on a réussi. Si nous, on l'a fait, honnêtement, n'importe qui peut le faire.
Ouais. Et la commune, là, quand vous leur avez dit, allez, on veut refaire vivre votre club, quel a été leur message tout de suite?
Bon, ça a été un message assez positif d'emblée. Voilà, une nouvelle association sur la commune, de environ 900 habitants. Forcément, avec de nouveaux événements qui arrivent, la commune pouvait qu'être heureuse de cette nouvelle. Après, effectivement, ça a été un travail de co-construction parce que dans l'accompagnement, dans tout ça, on a tâtonné au début. Il y a eu des relations qui n'ont pas été évidentes tout le temps, mais pas dans un sens opposition ou quoi. C'est juste que ni les uns ni les autres ne savions vraiment comment il fallait faire. Donc bon, on s'est entraîné, on s'est serré les coudes. Maintenant, on utilise le stade et on a de très bonnes relations avec la municipalité. Et j'ai tendance à dire heureusement, parce que dans des villages, voilà, encore une fois, de 900 habitants, si le club de foot est en guerre avec la municipalité, je reconnais c'est... que ça complique la chose.
C'est pas top, ouais. 900 habitants.
À peu près environ.
Ouais, ouais. Ouais. Quels sont du coup les... Quel est le grand défi maintenant du club, de ton club, sur et en dehors du terrain?
Alors tu fais bien d'employer cette expression parce qu'elle nous tient à cœur, le sur et en dehors du terrain, parce que je le dis tout le temps, le plus facile c'est sur le terrain. Paradoxalement, on pourrait croire que voilà, quand on voit les matchs à la télé, c'est la bagarre sur le terrain, c'est dur. C'est... Mais en fait, une fois qu'on n'a plus qu'à mettre les crampons et à jouer, c'est qu'on a fait le plus dur en amont. Donc j'ai tendance à dire que le plus gros défi du club aujourd'hui, il est de poursuivre sa structuration au niveau du bureau, au niveau de tout ce qu'on peut faire en dehors du terrain, c'est-à-dire mettre les joueurs dans les bonnes conditions. Donc que les terrains soient bien tracés, que les infrastructures soient propres quand on reçoit des adversaires ou quand on reçoit les officiels, arbitres ou délégués du district. Ça va être effectivement d'être en conformité administrative. Il y a quand même un petit suivi à avoir, il y a un petit peu de boulot. Organiser et animer les réunions de bureau. Voilà, c'est vraiment tout l'à côté du terrain qui est le défi du club aujourd'hui, la structuration autour du terrain. Pour la partie sportive, parce que on est aussi et avant tout des sportifs,
ouais,
on n'a pas, on est humble et on est assez conscient et on sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller. Aujourd'hui, on est reparti de zéro, donc on est parti en D4. On est monté dès la première année. Maintenant, la D3, entre la D3 et la D2, il y a quand même un vrai palier. Alors pour le coup, avec des règles administratives voilà, qui viennent aussi se rajouter,
ouais,
avec la nécessité d'une école de foot, de certains diplômes, d'être couvert par des arbitres, etc.
Est-ce que tu penses que... Alors je te coupe, tu vas pouvoir continuer après.
Vas-y, je t'en prie.
Mais est-ce que tu penses que cette règle pourrait être peut-être affaiblie?
Ça pourrait, après je suis pas partisan non plus du fait qu'il n'y ait pas de règles pour une division supérieure, parce qu'à un moment donné on se doit aussi de montrer l'exemple. Plus on monte les divisions, sur la nécessité d'une école de foot, je le comprends tout à fait. À un moment donné, la formation des jeunes, c'est l'avenir de chaque sport, pas que du football.
Ouais.
Donc à un moment donné, c'est normal.
Il y a un rôle à jouer.
Exactement, qu'on doit se structurer là-dessus.
Bien sûr.
Peut-être qu'il y a certaines règles qui pourraient être assouplies, je pense qu'on peut toujours trouver quelque chose à redire, mais globalement, je trouve que le règlement n'est pas trop mal fait de ce côté-là.
D'accord. Les réactions directes, vous pouvez toujours réagir. Il y a des Sarladais qui sont connectés. José Da Silva, bonjour à tous. Un véritable sportif et gentleman du football. Respect. José, un arbitre reconnu en Dordogne.
Tout à fait. Mais merci beaucoup, José.
Petite pensée pour lui et pour son papa qui était venu ici, qui est souffrant en ce moment.
Tout à fait.
Réaction de Eric Magnac, je ne sais pas si tu connais, j'écoute.
Le fameux coach dont je t'ai parlé au début de notre entretien, donc mon coach d'athlète qui me suit depuis la catégorie minime.
D'accord, et donc lui il a vu éclore son petit jusqu'à président du club. Et du coup, en fait, par contre, au niveau de la licence d'athlétisme, tu as toujours été au club de Sarlat.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
D'accord.
Hormis les périodes où je ne faisais plus de course à pied, mais j'ai jamais été licencié dans un autre club. Ouais.
William Lévesque, est-ce que ça te parle si je te dis William
Lévesque? William, ouais, très bien.
William,
fait les foulées de Coursac.
Exactement. Bonjour à tout le monde. J'espère vous voir à la PNA en nombre à Coursac le 22 et 23 novembre prochain. Est-ce que tu y seras?
Promis. En tout cas, je ferai tout pour y être parce que j'avais passé un super moment aux foulées de Coursac. Alors pas l'année dernière, j'avais pas pu, mais il y a 2 ans.
D'accord.
Donc promis William, si je peux, je serai présent avec grand plaisir.
Est-ce que d'être un président joueur, est-ce que ça t'aide à mieux comprendre les attentes de tes licenciés?
Clairement. Je pense que ce double rôle, pour le coup, lui, je le conseille à celui qui a du temps, encore une fois, parce que c'est un vrai investissement. C'est très chronophage pour les tâches qu'on a énumérées tout à l'heure, je ne reviens pas dessus.
Bien sûr.
Mais par contre... ça nous fait prendre conscience de certaines choses dont on n'a pas conscience quand on est simple joueur. Alors simple, c'est pas péjoratif dans ma bouche,
parce que c'est déjà très beau de
s'investir dans des assos sportives aujourd'hui, mais on voit l'envers du décor, quoi, clairement. Et c'est vrai que des fois on aurait tendance à en vouloir toujours un petit peu plus, et quand on met la casquette de président, on se dit bon, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait, allons-y étape par étape et construisons d'abord des fondations solides avant de vouloir monter trop vite.
Souvent, des fois, il y a des clubs qui montent très vite et puis qui,
malheureusement
retombent aussi vite que ceux qui sont montés.
Exactement, d'où la nécessité, j'insiste beaucoup là-dessus, mais de la structuration vraiment du bureau et de tout ce qui tourne autour du sportif est super importante.
Du coup, il y a combien de licenciés dans ton club?
Bah là, l'année dernière, on était à un peu moins de 60, passés partout, hein,
ouais,
donc, sur toutes les familles du football, on va dire, parce qu'on a un arbitre du coup qui nous a rejoint, on a des dirigeants, on a des licences bénévoles, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais il y a tous les types de licences qui sont représentées, donc de la catégorie.
Joueurs, mais aussi du coup dirigeants,
ouais,
bénévoles.
Exactement, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je sais plus, ça porte un terme. Mais en tout cas, voilà. Donc on était ça, et cette année, on est à peu près sur les mêmes standards. On n'a pas fait encore les chiffres parce qu'on a encore un joueur qui nous a rejoint là tout récemment, qui a fait son premier match avec nous dimanche dernier. Donc on n'a pas encore.
On veut des noms là, du coup.
On n'a pas encore
la recrue.
il s'agit de Gwendal. Alors j'espère qu'à cette heure-ci, il a l'entraînement et qu'il m'écoute pas.
Il y a entraînement en direct.
Normalement, oui. Normalement, oui.
Donc c'est pas grave, ils pourront t'écouter en podcast.
Ouais, exactement, c'est ça, c'est ce que je leur ai conseillé.
D'ailleurs, donc une équipe donc à 11 et l'équipe B, c'est une équipe à 8.
Challenge Critérium à 8, ouais, tout
ouais,
à fait.
D'accord.
Tout à fait, qui a été une découverte pour ma part quand on a monté le club.
Ouais.
Alors la première année, on était reparti juste avec une équipe de D4 parce que voilà, on tâtonnait, on savait pas trop ce que ça donnait niveau effectif.
Ouais.
Et dès la deuxième année, en fait, on a eu un engouement du coup avec un afflux. Tout est relatif sur un club de 60 licenciés, bien entendu, mais on a quand même eu du monde et on s'est retrouvé assez vite avec des demandes différentes surtout.
D'accord.
Et ça, on ne l'avait pas anticipé, avec des gens qui venaient vraiment pour du loisir. Et c'est vrai qu'au foot, bon, on est 11, et quand on est sur le terrain, bah, forcément, il y a cet esprit compétition, tout aussi petit soit-il, mais
bien
il est
sûr,
toujours là.
Bien sûr.
Et il y en a qui ne se retrouvaient pas forcément là-dedans. Et du coup, en cherchant un petit peu, on s'est penché sur ce critérium à 8, qui est super intéressant, je trouve, qui n'est pas proposé dans tous les districts de France, j'ai vu.
Ouais, ouais.
Nous, on a la chance de pouvoir l'avoir en Dordogne, avec un beau boulot qui est fait par la commission des championnats, d'ailleurs, parce que ce n'est pas évident. Il y a un coup, il y a beaucoup d'équipes, un coup, il y en a moins, ça fait des distances assez longues. Enfin, je sais que c'est un casse-tête.
En termes de géographie, c'est compliqué.
Je sais que nous, on ne leur facilite pas toujours la tâche, parce que les clubs, je sais qu'on râle souvent quand on fait beaucoup de distances, mais on est aussi conscient que ce n'est pas facile. Mais donc, du coup, oui, on a une équipe B à 8, donc qui est là vraiment orientée loisir. Donc, chez nous, c'est un mix entre des anciens qui ne veulent plus forcément jouer à 11, mais qui veulent continuer la pratique,
ouais,
et des gens qui ont ou jamais joué au foot ou veulent jouer au foot vraiment pour se faire plaisir. Et sans notion de résultat. Voilà. Et cette équipe fonctionne très bien, elle est plébiscitée. On a hésité à la reconduire. Et franchement, vu l'engouement qu'on a eu en début de saison, on la reconduira et on sera présent dans ce championnat cette année.
D'accord. Championnat, du coup, il y a qui en équipe B? Il y a les derbies?
En équipe B, pas trop, parce que c'est assez éclaté, du coup. Dans la poule, après, on a Montignac, qui est pas loin de chez nous. On a aussi Espérance, Fénelon, Saint-Julien-de-Lampont, tout ça. Donc, c'est pas très très loin.
Ouais.
Sur cette première phase, on a le club de Villac aussi, et Saint-Léon-sur-Vézère.
D'accord.
Donc
d'accord.
Oui, ça reste quand même. On ne peut pas parler de vrai derby, mais c'est quand même pas très loin. Ouais. Par contre, sur l'équipe première, on a vraiment une poule
où
c'est une poule à derby.
Je vais en revenir justement par rapport à ça. Tous les clubs du coup de Sarlat n'ont pas accès à cette équipe à 8. S'ils veulent rejoindre l'effectif, ils peuvent.
Avec grand plaisir, la porte est grande ouverte.
Grande ouverte. Ouais, à proximité de Sarlat, si vous voulez vous rapprocher du club, c'est le moment de vous rapprocher de Mathieu.
Ouais, exactement. Via notre page Facebook on a aussi le mail. Toutes nos coordonnées sont dessus, donc faut vraiment pas hésiter. C'est une belle manière de découvrir le football. Ouais.
Le football, ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, Mathieu, il y a le président du district qui t'écoute et qui réagit en direct. Un homme de valeur et investi, un bel exemple à suivre du bénévolat et de cette nouvelle génération dévouée au foot amateur. Belle saison à Saint-Génie et à ses licenciés, Jonathan. Voilà, réaction directe du président.
Je vais juste réagir en deux mots, mais bon, déjà, je le remercie pour ces jolis mots et dire aussi tout le bien que je pense du boulot qu'il fournit avec toute son équipe depuis qu'ils ont été élus et investis. On sent que ça bouge, ça se ressent au niveau du foot rural et ça fait vraiment plaisir. Je précise quand même que je suis un peu parti pris parce que j'ai ma maman qui est élue au comité directeur avec Jonathan.
Ah d'accord.
Donc je dis du bien du district, mais elle est élue au comité directeur et elle est coprésidente de la commission de féminisation avec Alicia Bernard. Et donc là aussi, il y a un vrai sujet. Mais hormis tout ça, il y a vraiment du boulot qui est fourni. Du coup, j'ai l'occasion aussi de voir tout l'investissement que c'est pour organiser les championnats. et pas que les championnats seniors, les championnats jeunes, voilà, et toutes les actions qu'ils mettent en place et leur nouvelle communication, c'est vraiment top.
Ça respire football chez les Brus.
Oui, c'est ça. Peut-être un peu trop d'ailleurs, apparemment, mais.
Réaction du coup, oui, sur par rapport à cette poule, hein, cette poule où c'est quand même, il y a énormément de derby.
Ouais, exactement.
Là, on se régale.
C'est ça. Ben, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire, mais surtout pour tous les goûts de derby. Ouais. Mais bon, c'est bien, ça limite les déplacements, les frais de route seront pas trop importants cette année. J'espère que les frais au niveau des cartons seront aussi peu importants que les frais de déplacement, parce que bon, un derby reste un derby. Mais mais c'est.
Il peut se passer des derbies sans carton.
Oui, tout à fait. Ouais. Bon, ça a pas été le cas dimanche dernier, mais il n'empêche que ça a été un super match et ça s'est super bien passé. Bon, en plus, c'était contre l'Entente Marcaille-Tamiès, c'est un club non seulement voisin, mais en plus ami. Donc voilà, il y a eu.
Et club qui descend des deux et
ouais,
vous avez
exactement.
Perdu que
2-1. Ouais, 2-0.
2-0.
Ouais. Oui, on perd 2-0. En plus, comme je te dis, il y a des joueurs qui rejoignent juste le projet.
Ouais.
Donc on est encore en phase de construction.
Ouais, bien sûr.
Et de toute façon, un club qui a 4 ans. Déjà, j'estime que un club est toujours en construction, parce qu'il faut toujours savoir se remettre en cause. Voilà, on n'a pas la vérité et le schéma du club parfait, donc
bien
ça
sûr.
On se remet toujours en cause là-dessus, mais nous on est un jeune club et encore une fois on a le temps pour bâtir des fondations solides avant de penser à autre chose.
Et on a la deuxième de journée de championnat, donc pas de panique,
non, du tout.
Donc qu'est-ce que je voulais te dire au niveau du club, par rapport aux équipes qui sont dans cette poule, pour toi, quelle va être la plus grosse équipe ?
Ah, c'est une bonne question. Question à laquelle je n'avais pas réfléchi. Bah, je pense que tu as des écuries quand même comme Conda qui ont connu des niveaux supérieurs, qui ont connu la D2, qui déjà l'année dernière ne sont pas passés loin de la montée, qui je pense cette année joueront les premiers rôles. Tu as la C de Sarlat aussi qui l'année dernière a proposé quelque chose de super cohérent, c'est très jeune. Donc honnêtement, si je devais pas mettre une pièce, mais en tout cas espérer pour ces jeunes-là, notamment qui jouent en C, qu'ils puissent aller voir un peu plus haut, pourquoi pas que Sarlat joue les premiers rôles.
Ouais.
Et je pense qu'ils ont les capacités pour. Après, j'en oublie peut-être. Je sais que sur les descentes de D2, pareil, je pense que l'ambition c'est essayer de jouer les hauts de tableau, voire remonter aussi. Donc je pense que ces clubs-là seront au rendez-vous. Après, pour nous, le reste, on va dire, c'est des clubs qu'on affronte depuis 2 ans, donc on connaît plus ou moins. Mais le foot étant ce qu'il est, c'est vrai qu'on a des effectifs qui connaissent des problèmes de recrutement de joueurs. Donc à ce niveau-là et dans notre milieu rural, c'est vrai que d'une année sur l'autre, tu peux avoir des disparités assez importantes malheureusement en termes d'effectifs.
Ouais. Tu as décroché, on a dit, hein, le titre de champion de cross en équipe en 2012.
C'est ça.
Pour toi, quelle est la différence entre l'esprit d'équipe en cross athlétisme et celui que tu vis dans le football ?
Alors, j'ai envie de te dire que j'en trouve pas vraiment.
Ouais.
Parce que, effectivement, on peut se dire sport individuel, sport collectif. Le collectif, c'est les valeurs des copains, de tout ça, ce qui est vrai. Mais tu le retrouves aussi en athlétisme, notamment avec des titres par équipe, où en fait, on est tous sur la ligne de départ. Et après, comment ça se passe, le classement par équipe ? On prend les résultats. Je crois qu'à l'époque, c'était des 4 premiers plus d'un remplaçant dans l'équipe. On additionne et celui qui a le moins de points, du coup, gagne le titre de champion de France. Donc c'est comme ça qu'on a obtenu notre titre à La Roche-sur-Yon, si je ne dis pas de bêtises. Là, tu es dans ta course, tu fais ta course pour faire la meilleure place possible, toi en individuel, mais tu penses aussi à l'équipe. Et j'ai plein de copains, alors notamment sur le titre, parce qu'on a été aussi champion de France UNSS la même année.
D'accord.
Champion de France de cross par équipe. Je sais que la course avait été très très dure. Et mentalement, tu as quand même ce supplément d'âme de te dire « je me dépasse pour les copains ». Alors effectivement, c'est peut-être plus naturel pour quelqu'un qui a un double cursus, qui a connu le sport individuel et qui a connu le sport collectif. Mais il n'en demeure pas moins que tu as des épreuves en athlétisme qui nécessitent un esprit collectif ultra fort.
Ouais.
Je te cite par exemple les interclubs, qui sont une compétition club contre club d'athlétisme sur toutes les disciplines que tu retrouves sur le stade. Donc
d'accord.
Ça va du saut au lancer en passant par la course. Tu marques un certain nombre de points en fonction de tes performances.
D'accord.
Et après, tu es classé, tu as des divisions et tu.
Et
voilà.
C'est le club qui fait dans toutes les disciplines le meilleur score.
Exactement,
et qui est classé.
C'est ça.
Okay.
C'est ça. Donc là, je sais que moi, quand j'avais quitté, quand j'ai arrêté ces distances-là, on avait un niveau national 2, donc ce qui était quand même très intéressant. Ouais, tout à fait. Et donc après, il y avait des systèmes de montée-descente, pareil. Donc si tu faisais pas le nombre de points requis ou si tu étais dans les deux derniers, les relégables, comme on dirait au foot, tu descendais d'une division et après, etc. Donc là, pareil, c'était vraiment l'occasion de réunir tout le club, toutes les familles de l'athlé, parce que l'athlétisme c'est quand même assez varié. Il y en a là aussi pour tous les goûts et te dépasser, pas que pour toi, mais pour l'équipe.
Mathieu, on sait l'exigence que ça demande justement pour performer dans ce domaine comparé au foot. Est-ce que derrière, il n'y a pas un manque de reconnaissance ? Parce que finalement, l'athlétisme n'est pas forcément mis en avant dans les médias.
Bah, si, je le déplore depuis un certain temps. Et en l'ayant connu, du coup, jeune, c'est vrai qu'il y a un réel manque de reconnaissance, de couverture médiatique. Là, par exemple, on a eu les championnats du monde d'athlétisme récemment. On a quand même un mec qui s'appelle Jimmy Gressier, qui a été champion du monde du 10 000 et qui fait une médaille sur 5 000. Honnêtement, si tu fais un micro-trottoir, combien de personnes vont te citer le nom de Jimmy Gressier? Alors que le mec se met des charges d'entraînement énormes et finalement on entendra très peu parler de lui. Il y a point de vue de la couverture médiatique, mais il y a un point de vue qui est encore plus grave, je trouve, c'est la reconnaissance malgré tout salariale. Un athlète de ce niveau-là, il a vraiment galéré dans la vie. Et pourtant, c'était quelqu'un qui s'envoyait déjà des semaines à... Je me doute que ça va être 10-12 entraînements semaine avec des séances que je ne citerai pas là parce que ça ferait peur à la plupart des auditeurs. Mais c'est vraiment des choses... C'est très, très dur. C'est une rigueur énorme. Pas de reconnaissance. Enfin, le gars, on n'entend pas parler à la télé. Il est obligé d'avoir ou un double cursus, d'être militaire à côté... Donc cursus de sportif de haut niveau dans l'armée, ou alors se débrouiller par lui-même de trouver des sponsors qui viendront le payer. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, heureusement pour lui, pour Jimmy Gressier, pour le souhaiter, il a réussi à obtenir un super partenariat avec la marque Keep Run pour pas les citer, mais quand même ceux qui font les efforts pour, il faut les mettre en valeur aussi. Et maintenant, il s'en sort, mais je veux dire, il y a beaucoup d'athlètes pour qui c'est très dur et qui vont pas jusqu'au bout à cause de ça, parce que tout simplement ils peuvent pas en vivre, quoi.
Est-ce que par rapport à toi, c'était peut-être le choix que tu as fait naturellement de te dire, mais finalement, par rapport à tous les efforts que j'ai très peu de reconnaissance. Derrière, par contre, je vais au foot, je vais être avec mes copains, je vais m'amuser et finalement, je vais faire ce choix-là. Est-ce que pour toi, c'est ce qui a basculé pour ton avis?
Ouais, alors il n'y a pas eu que ça, mais ça a été effectivement un élément de la bascule, tout à fait, parce qu'à un moment donné... Tu as aussi des périodes dans la vie qui sont charnières, le passage du lycée en études sup, tu as après l'arrivée sur le marché du travail et la vie active, où c'est plus ou moins facile suivant les situations. Et là, effectivement, si tu es dans une passe un peu difficile sportivement, que dans ta vie côté études ou côté boulot, ça marche pas trop, et qu'à côté de ça, tu vois tous les jours en ouvrant le journal que tu affectionnes que les résultats de foot, et toi on parle jamais de toi. Et effectivement, il y a ce côté un peu, on peut le dire, frustrant, décevant, de se dire tous ces efforts finalement pour pas grand chose de ce côté là quoi. Donc effectivement, après il y a le fait de se dire écoute, on va faire autre chose, on va le faire différemment, et puis on va se faire plaisir dans un autre sport qui me passionne tout autant, et au moins là il y aura le côté copain, il y aura moins ce côté compétition, affirmation vraiment de la performance. Donc oui, ça joue clairement.
Comment on fait, Mathieu, pour du coup enchaîner un trek le matin et un match de foot l'après-midi? Comment il fait le corps pour l'encaisser?
Alors le corps, on lui demande pas trop son avis dans ces cas-là. Et là, on demande plutôt l'avis du cerveau, enfin du mental en tout cas.
Ouais.
Et voilà, après, je pense que c'est la passion qui prend le dessus, clairement, on réfléchit pas trop. Il faut se lever le matin très tôt pour partir sur des courses qui sont généralement entre 8h et 9h, les départs, généralement c'est à peu près ça.
Ouais.
Quand c'est pas en sarladé, nous c'est tout de suite comme pour venir jusqu'ici une heure, voire une heure et demie de route. Donc voilà, il faut partir très très tôt. Et après, l'enchaînement, il faut bien gérer l'enchaînement en fait entre la fin de la course et le début du match. Là, c'est le plus dur. Parce que tu as les muscles qui commencent un peu à tétaniser, et le temps de se remettre en selle, comme on dit, là c'est difficile. Après, une fois que le match est lancé, ça va mieux. Mais par contre, il faut faire attention derrière, il faut prévoir une bonne récup. Les troisièmes mi-temps, bon, il ne faut pas m'imiter, il faut partir plutôt que moi du clubhouse.
Parce on que... finit tard du clubhouse là, de chez toi ou pas?
Oui, c'est régulier. Bah, pour la petite anecdote, quand on a remonté le club, je pense les 5 ou 6 premiers vendredis, c'était à peu près 4h du matin de moyenne.
Oui, quand même.
Ouais, ouais. Donc pour enchaîner derrière le lendemain un footing, ce n'est pas possible. Et qui plus est quand on a fait, trail et course. Et match, pardon. Par contre, ce à quoi il faut faire super gaffe, c'est que c'est vraiment deux sports, c'est ultra différent.
Ouais.
On est plus sur le trail ou sur la course à pied en général, dans un effort longiligne qui va nécessiter plus de capacité foncière. Par contre, dans le foot, on est vraiment sur des appuis très fuyants, très divers, avec des courses de haute intensité qui se répètent. Donc, ce n'est pas ultra compatible.
Ça pique pas à la 80e ?
Si, même avant.
Ça t'est arrivé de tacler ou quoi que ce soit, d'avoir une crampe ou...
Ah oui, les crampes, ça m'est arrivé, sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Surtout si tu joues un match de coupe et que tu as le... Bon, maintenant, il n'y a plus les prolongations, mais si t'avais le malheur d'aller aux prolongations sur un match de coupe... Plusieurs fois sur le terrain, je priais pour que pour qu'il y ait un but parce que c'est pas de prolongation.
Et oui, d'ailleurs, il y a eu une fois, tu es venu donc de Sarlat, Ribérac pour venir faire le trail de la double. Tu as été après à Tilliers
pour repartir à Sarlat, c'est ça, exactement. Ouais. Ah oui, c'est des périples comme ça, exactement.
Ah, ça fait un beau tour de Dordogne.
Je connais le département par ce biais-là. Alors, j'ai la chance souvent d'être accompagné par ma compagne ou ma maman ou quelqu'un de mon entourage.
Ouais.
Ce qui fait que je ne conduis pas souvent. Ça me permet de faire une petite sieste entre la fin de la course et le début du match.
La micro-sieste.
Exactement.
C'est important.
Donc, je ne vois pas tout le temps tous les paysages, mais j'y passe, ça c'est sûr.
Il nous reste 3 minutes, il faut qu'on fasse vite. Qu'est-ce que ces deux sports se complètent? Comment tu prépares en fait ta préparation physique? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais en plus par rapport au sport ou non, pas spécialement finalement? Parce que tu connais tes capacités physiques.
C'est ça, aujourd'hui donc j'arrive à 30 ans avec tout le passif dont on a parlé. Je sais à peu près ce que mon corps est capable d'encaisser. Et ce qu'il faut surtout ne pas faire pour aller jusqu'à la blessure. Donc non, il n'y a pas de spécificité particulière. Et pour l'instant, je reste sur des objectifs qui sont très raisonnables, mais à la fois difficiles des fois à obtenir. C'est surtout de prendre du plaisir et de me retrouver dans ce que je fais.
Et on va te retrouver sur le marathon oui. Du côté de...
Du Périgord Noir,
c'est ça,
le 26 octobre.
42 km.
Ouais, c'est le défi de l'année, là. Ouais, je me suis lancé ce défi-là, qui est un peu fou, puisque j'évolue plutôt sur des distances entre 10 et 20 bornes. Bon, ben là, on va faire le double.
Voilà. Avec du plaisir.
Ouais, exactement. Toujours.
Avant le mot de la conclusion, réaction directe, Yannick, Jérémy, un petit bonjour du Ville Touré Foot Loisir qui participera ce samedi au challenge du souvenir à celle aux journées en souvenir des joueurs, dirigeants, supporters disparus ces dernières années. C'est noté, on ira aussi du côté de celle donc ce week-end.
C'est ça.
Voilà. Ton mot de la conclusion, si tu devrais, si tu avais un dernier mot à lui dire.
Bah, le dernier mot, ce serait que ce soit le foot ou l'athlétisme ou d'autres sports, c'est un conseil surtout, c'est faites du sport et en faisant du sport, surtout, n'oubliez jamais de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Si vous faites les choses avec passion, elles se feront naturellement et vous durerez dans n'importe quel sport.
Eh bien écoute, très très beau message, Mathieu Brou, il nous a régalé ce soir, il a super bien parlé. Donc le petit club, les supporters veulent venir voir un match, c'est quand le prochain match?
Dimanche, deuxième tour du Challenge Série Pub, où on recevra Pays Beaumontois B. C'est ouvert à tout le monde, il y a tout ce qu'il faut pour se restaurer et on a une buvette, donc vous pouvez venir nombreux. Et j'ai juste un message aussi, le 12 décembre il y aura un trail urbain qui est organisé à Sarlat, dans la cité médiévale, qui est super, super à découvrir. Donc s'il y en a qui veulent venir, il y a ce trail urbain le 12 décembre, et après on a la Sarladaise bien sûr le 24 mai, qui est l'épreuve phare du club du PNA.
Voilà, et bien écoute, c'est noté. Merci à toi Mathieu, on te souhaite le meilleur, on te souhaite de bon retour du côté de Sarlat.
Merci beaucoup.
Et quand tu veux revenir, ça sera avec grand plaisir.
Ce sera avec plaisir, merci beaucoup à tous en tout cas.
Voilà, moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt, ciao ciao.